France Inter. Le 18-20. Claire Servagen.
Au téléphone sonne ce soir ces mariages et ces enterrements qui se font en catimini depuis le début de l'épidémie. Quand les rires et les larmes ne trouvent plus leur place lors des cérémonies, qu'on enterre les morts à la va-vite ou qu'on reporte les mariages en attendant des jours meilleurs. On s'arrête ce soir sur cette autre conséquence de la pandémie de Covid-19, celle qui concerne le bouleversement de nos rites les plus intimes, heureux ou malheureux. Ces défunts que les familles n'ont pu enterrer dignement, qu'elles n'ont parfois même pas pu saluer, par peur du virus. Ces dépouilles qui, faute de place en chambre mortuaire, ont dû être entreposées dans des lieux improbables. Ces cérémonies réduites à la portion congrue comme un chagrin supplémentaire. Pour que l'adieu ait lieu, certains se retrouveront plus tard. Et que dire des futurs mariés qui ont dû reporter leurs noces alors qu'ils avaient tout préparé et lancé les invitations depuis des mois. Une majorité d'entre eux ont préféré renvoyer le mariage à plus tard. Ce soir, vous l'avez compris, nous allons parler des contretemps du Covid pour le meilleur et pour le pire. Pour nous accompagner et répondre à vos questions, trois invités que je salue à distance. Michel Kavnik, président de l'Association française d'information funéraire. Stéphane Seban, créateur du magazine Marions-nous et fondateur du Salon du mariage. Alexandre Lacroix, directeur des rédactions de Philosophie Magazine. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler le standard de France Inter.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et tout de suite, un premier appel. Béatrice est en ligne. Bonsoir Béatrice.
Bonsoir, merci beaucoup.
Mais je vous en prie, d'où appelez-vous Béatrice?
J'appelle de Paris.
Et vous, vous appelez parce que vous devez vous marier, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Je dois marier le 3 octobre. Et c'est posé pendant le confinement la question du report du mariage, puisque comme tout le monde, nous ne savons pas si une deuxième vague de l'épidémie va arriver. Et donc, nous avons dû réfléchir en fait aux différentes possibilités. Et il est assez complexe en fait de reporter le mariage puisque les salles sont déjà surbookées. Et donc, nous avons fait le choix de maintenir le mariage coûte que coûte, même si nous pouvons nous marier à 3 ou 4 personnes en octobre, nous maintiendrons le mariage. Et je voulais surtout témoigner du fait que c'est aussi l'occasion de réfléchir sur le vrai sens du mariage pour nous, en tout cas, savoir est-ce qu'on préfère être entouré de nos proches, faire la fête ou vraiment se marier. Et donc, en tout cas, pour nous, c'était plutôt la deuxième option qui s'imposait. Et donc, on veut à tout prix maintenir le mariage quoi qu'il arrive.
Au départ, c'était quoi le projet, Béatrice? C'était avec du monde?
Oui, c'est avec du monde. J'ai une grande famille, on a des gens qui viennent de l'étranger, donc on attend à peu près 180 personnes et des personnes âgées également. Donc voilà, c'était un peu compliqué de savoir quoi faire.
Effectivement, c'est un très grand mariage, 180 personnes. Vous le préparez depuis longtemps ?
Oui, on le prévoit depuis longtemps. On s'est fiancé l'été dernier, donc ça va faire bientôt un an et demi à la date du mariage.
Donc c'est un événement important pour vous, c'est pas simplement une formalité où on passe à la mairie et terminé ?
Non, pas du tout, c'est un événement important et jamais on aurait pensé que ça puisse être annulé en raison d'une pandémie mondiale, quoi. C'est ça qui est d'autant plus difficile en fait à penser.
Et on a beaucoup dit que le confinement avait été une épreuve pour certains couples. Alors je ne veux pas rentrer dans vous poser des questions trop intrusives, mais vous avez vécu le confinement avec votre chérie et vous avez renforcé votre envie de vous marier ?
Et oui, exactement. Nous avons vécu le confinement ensemble et y a eu des hauts et des bas comme tout le monde, je pense. Surtout quand on se posait la question d'annuler le mariage, c'est pas forcément évident. Mais ça a été aussi un moyen de confirmer notre choix et d'être sûr qu'on faisait la bonne démarche.
Et que donc, du coup, même si c'est pas avec 180 personnes, ça vaut quand même la peine de passer la bague au doigt, c'est ça?
Exactement, c'est ça. Ce qui compte, c'est la personne avec qui je le ferai et c'est tout.
Voilà, en tout cas, vous avez quand même, j'ai entendu Béatrice, des questions sur la date du mois d'octobre, voir comment ça va pouvoir se passer. On va poser la question, on a Stéphane Seban qui est en ligne avec nous ce soir. Bonsoir Monsieur Seban.
Bonsoir Claire, comment allez-vous?
Très bien, créateur du magazine Marions-nous, c'est ça, fondateur du Salon du mariage. Vous avez entendu Béatrice, mariage prévu au mois d'octobre, qu'est-ce que vous lui dites?
Déjà, moi, je suis plutôt confiant sur la date qu'a choisie Béatrice, parce que début octobre, je pense que il y a beaucoup de facteurs qui concordent pour dire que la pandémie sera derrière nous depuis quelque temps. On a eu la chef de cabinet du Premier ministre en début de semaine qui nous a laissé quand même entrevoir qu'il y avait de fortes possibilités que bien avant déjà on puisse faire on puisse ne pas être limité à 10 personnes mais à beaucoup plus. Donc je pense que ça va être des annonces qu'on entendra dimanche soir. Et donc, si déjà dimanche soir on a des annonces dans ce sens-là, je pense qu'au 5 octobre, on devrait être relativement tranquille. Alors peut-être pas pour les 180 invités, puisque certains viennent de l'étranger et qu'il y aura peut-être encore des difficultés. Ça dépend d'où de l'étranger. S'ils viennent d'Amérique du Sud, par exemple, je pense que ça sera compliqué. Maintenant, pour s'ils viennent d'Europe, il y aura aucun souci normalement, et elle peut vraiment se rassurer, Béatrice, il y aura un maximum d'invités. Effectivement, le mariage est important pour elle, je comprends, l'acte même de se marier, mais la fête est indissociable de cet acte-là. C'est une fête familiale, c'est un regroupement, un rassemblement de bonne volonté qui ont envie de célébrer un moment particulier, et ils seront en rendez-vous. Moi, je serai Béatrice, je serai pas très 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 inquiète finalement. Nous-mêmes, on a notre salon une dizaine de jours après, à la porte de Versailles, il y a 40 000 personnes qui sont attendues. Donc si Béatrice s'inquiète pour 180 personnes, nous on n'est déjà plus inquiets pour quelques dizaines de milliers de personnes. Donc,
en tout cas, elle a eu raison de peut-être, sans le savoir, hein, de prévoir son mariage en octobre, ce qui n'est pas forcément la période de l'année que choisissent la majorité des gens.
Absolument pas. La grande période de mariage se trouve entre mars et septembre. Donc en mars, ça commence doucement, et finalement on est tombé vraiment au tout début de la saison du mariage, ce qui a impacté quasiment 80-90% des mariages, hein, puisque même si on pourra, je le pense, se marier peut-être pas en juillet dans les conditions habituelles, mais au moins au mois d'août, on aura quand même 90% des mariages qui auront été... Par effet, même ceux qui peuvent se marier au mois d'août ont déjà reporté pour certains. Pour ceux qui n'ont pas reporté, ne reportez pas. Il y a de fortes chances que ça se passe très bien.
On sait à peu près quel pourcentage de mariages prévus là au printemps et cet été ont déjà été reportés à peu près. J'ai cru voir des bien chiffres sûr. Du genre 60% des mariages prévus reportés.
Ben alors ça, c'était notre étude qu'on avait fait au début du mois de mai, entre le 1er et le 7 mai. Depuis, ça a fortement évolué. On a à peu près 90% des mariages qui sont reportés. Donc là, même si jamais on déconfine plus largement à partir, au moins qu'on a cette annonce dimanche soir, il y aura de toute façon tous ceux qui auraient pu se marier suite à cette annonce qui ont déjà reporté par mesure de prudence. Et puis, je vous rappelle quand même qu'un mariage, ça se prépare, comme nous le disait Béatrice, quasiment un an avant. C'est pas un truc de dernière minute, on y pense pendant des années et a priori on a envie de faire les choses bien.
Alors vous nous disiez que vous attendiez dimanche soir, c'est-à-dire demain. Vous espérez qu'Emmanuel Macron va parler de ça? C'est à cette occasion que vous attendez des annonces?
Bon, je pense qu'il va de toute façon assouplir hein, le règlement. Pour l'instant, on peut aller en mairie à 10 personnes ou un peu plus si la mairie est plus grande en fonction de la surface de la mairie. Mais pour ce qui est des fêtes dansantes, on est encore limité à 10 personnes, à moins qu'on le fasse dans un espace privatif, c'est-à-dire chez soi, avec un grand jardin. Auquel cas, on n'est pas sous le coup de la loi, on peut inviter de 300 personnes si on a un jardin suffisamment grand. Mais sinon, pour le reste, c'est compliqué. Là, maintenant, dans les règles de l'art, à mon avis, ça devrait monter à ce qui est à peu près la moyenne des mariages en France, hein, on va dire entre 70 et 100 personnes. J'espère bien que le curseur va monter de 10 à 100. C'est ce qui avait été un petit peu le cas, hein, finalement, dans le confinement. On était passé de 1000 personnes, des rassemblements de 1000 personnes à 100. Il y a ce fameux seuil fatidique des 100, et j'espère qu'il sera annoncé. On a bon espoir, en tout cas.
Combien de mariages chaque année à peu près en France, Stéphane Seban? Plus de 200 000, 230 000?
On est à 230 000 mariages exactement, et les mois de juin, juillet, août et septembre font 30 000 mariages par mois en général, et au mois d'octobre 15 000. Donc voilà, il y a la quasi-totalité des mariages qui sont déjà soit reportés, soit annulés parce qu'ils pouvaient pas se tenir, soit reportés. Et même si demain ils peuvent se tenir, ils sont déjà d'ores et déjà reportés parce qu'ils ont pris les devants, les futurs mariés.
Alors
ils ont raison, on les comprend. Hein.
Bien sûr, on reviendra sur les aspects plus pratiques des cérémonies et les conséquences économiques évidemment des reports de mariages dans quelques minutes. Mais une question pour Alexandre Lacroix de Philosophie Magazine. Bonsoir à vous également.
Bonsoir.
Peut-être un mot de ce que représente ce rituel du mariage qui, en 2020, se porte toujours bien en France.
Oui, alors le mariage, c'est vrai que c'est un événement qui est très intéressant parce qu'il y a une sorte de d'alliance de deux éléments, de deux dimensions de l'existence qui sont jamais réunies en fait. D'un côté, dans un mariage, il y a la lecture d'un certain nombre d'articles du droit et donc il y a un engagement devant un représentant de la République, donc il y a la loi. Et en même temps qu'il y a la loi, il y a la fête. Et ça, en général, on voit bien qu'on essaye de suspendre le poids des lois et du droit, en général, pour faire la fête. C'est au contraire. Et donc, dans un mariage parfait ou dans un mariage réussi, il faut qu'il y ait les deux. Il y a la mairie et puis ensuite la réjouissance. Et dans le temps de la fête, on trouve quelque chose de complètement antagoniste, enfin différent, contraire à la loi. C'est-à-dire une sorte de débordement, la musique, l'ivresse, la danse, tout ça, ça doit faire partie de la fête. Alors c'est vrai que nous, à Philosophie Magazine, on n'a pas lancé de sondage, mais on a constamment recueilli des témoignages durant toute cette période de confinement. Et une option qui a été fréquente, c'est que les gens ont choisi de séparer les deux éléments que je viens de présenter. C'est-à-dire se disant, ben, on va passer à la mairie et puis on fera une fête plus tard. Donc on va dissocier l'élément, l'acte juridique et puis le moment festif. Je comprends le témoignage de Béatrice. Enfin, c'est-à-dire, je comprends qu'elle n'ait pas envie de dissocier les deux. Parce que le fait que les deux résonnent l'un avec l'autre, la loi et la fête, c'est une expérience un peu unique dans l'existence.
Et pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin de témoins à un mariage ? Alors je ne parle pas de l'aspect juridique des choses, mais l'aspect philosophique. C'est parce que le témoin, il vient apporter la preuve, enfin, il se fait garant de cette union ?
Alors, l'amour, dans l'amour, il y a une sorte de folie. C'est-à-dire que l'amour, la rencontre, c'est le face à face, c'est le face à face des amoureux. C'est quelque chose d'extrêmement intime. Et le mariage, c'est un moment où l'amour devient social. C'est très étrange parce que l'amour, c'est asocial. Quand je dis qu'il y a une sorte de folie, d'intimité, c'est la sphère privée, c'est asocial. Ça concerne ni la famille, ni la politique, ni la tradition. C'est à deux que ça se vit. On peut devenir fou d'amour complètement. Et le mariage, c'est pas que ça assagit ou que ça refroidit l'amour, mais c'est le moment où on sort de ce tête-à-tête. Et pour sortir de ce tête-à-tête, il faut qu'il y ait évidemment un représentant, un représentant de la République, mais pas seulement. Il faut qu'il y ait des témoins. Alors les témoins aussi, ils ont un rôle bien particulier juridique, mais est prise à témoin également, enfin sont pris à témoin tous les invités, c'est-à-dire toute la famille. Et l'acte, par exemple, un acte très symbolique dans le mariage et important, c'est le moment où on s'embrasse. Ça n'a rien de juridique, bien sûr, le moment où on échange un baiser devant ses invités. Pourquoi on fait ça ? Ben ça, c'est une vieille tradition romaine, en fait. Hein, chez les Romains, le baiser sur la bouche, ce baiser-là, en tout cas, c'est un baiser qui s'appelle le basium. C'est un baiser qui signifie qu'on appartient à la même famille, désormais. Donc on fait famille publiquement en s'embrassant devant les autres, ce qui est très étrange en soi. Hein. Je vous disais tout à l'heure que l'amour, c'était une sorte de folie intime. Et s'embrasser devant les autres, devant ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines, c'est bizarre. Et pourtant, c'est essentiel parce que, effectivement, c'est le mariage est le moment où s'opère une ouverture de l'amour vers la société.
Et évidemment, une telle cérémonie sans pouvoir s'embrasser, se toucher, en respectant les fameuses distanciations, ça va être compliqué. C'est complètement antagoniste.
C'est compliqué, c'est pour ça que je parlais d'ailleurs du baiser à dessein, c'est-à-dire
on peut supposer quand même que les époux, eux, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que avec tout le reste de la famille qui arrive, là, ça va être compliqué par rapport au virus, quoi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il me semble que dans un mariage, en fait, on apprend à se connaître et on se touche. Enfin, je veux dire par là que les familles fusionnent et ça passe également par des bises, par des regards, par de la proximité. Et c'est aussi le sens de la fête.
Alors voilà pour le mariage, puisque le premier appel, celui de Béatrice, concernait le mariage. On va repartir au standard à présent pour retrouver Jacques qui, lui, va nous parler de cet autre moment de la vie qu'est la mort. Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
On vous écoute, vous êtes à l'antenne.
Oui, je suis depuis cette histoire d'épidémie, etc. Il y a toujours quelque chose qui m'a complètement perturbé et même dévoré, alors que je n'ai pas eu, j'ai eu la chance de ne pas avoir de membres de ma famille qui soient malades ou du moins qui soient partis avec cette maladie. Mais j'ai essayé plusieurs fois de mettre à la place de ces familles justement qui ont perdu quelqu'un avec cette épidémie et à qui on a refusé seulement quelques instants avant la disparition de leurs proches. Et je pense que sincèrement, les gens qui ont décidé ça n'ont pas dû vraiment se rendre compte de ce que pouvait être même la fin de leur propre vie, et qu'on leur refuse tout simplement de pouvoir serrer la main à leur femme, leur mari, leur enfant dans ces derniers moments-là. Je pense que ces gens-là n'ont pas imaginé au fond de leur bureau ce que ça pouvait être, des moments terribles comme ça. Et comment ces gens-là peuvent faire leur deuil ensuite, c'est pas possible. Il y a bien des choses qu'on va oublier, cette épidémie-là, bien des choses. On a déjà commencé à oublier pas mal de choses. Mais les gens qui ont vécu ça, les gens qui se sont vus devant un cercueil en disant, ben non, on ne peut plus ouvrir le cercueil, voilà, votre mari ou votre femme ou de maman, et ben voilà, quoi, ils ont été mis dans la housse rapidement, sans toilette, sans rien, sans même qu'on leur serre la main, peut-être avec des soignants, ce qui est très possible, et mais, j'y crois.
Mais pas avec les proches, et ça c'est un vrai souci.
Mais j'imagine ce que.
Merci Jacques.
Je sais pas. Est-ce que les gens peuvent s'imaginer de partir sans voir les yeux?
On va poser la question. Merci Jacques de nous avoir appelé, d'avoir posé cette question. Michel Kavnik, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Président.
Alors écoutez, donc j'ai entendu donc cet auditeur. En effet, il y a des situations qui sont absolument dramatiques suite au Covid-19. Et il y a eu des consignes successives donc du Conseil, du Haut Conseil de la Santé publique, afin surtout de faire qu'il ne puisse pas y avoir des transmissions donc de ce virus aux proches, aux familles présentes, et de faire que les obsèques ne puissent pas tourner en drame par une contagion absolument collective.
Michel Kavnik, pardonnez-moi, je voudrais juste repréciser que vous êtes président de l'Association française d'information funéraire. Dites-nous si vous avez été sollicité par de nombreuses familles qui vous ont appelé pour vous signaler qu'elles étaient confrontées à ce genre de problème.
De très nombreuses familles ont appelé notre organisme, des familles atterrées, je dirais, par tous les interdits. Si je prends un exemple, bon, ne pas pouvoir être présent lors de la mise immédiate donc en cercueil, que le cercueil était fermé donc très très rapidement, sans que les familles puissent être présentes. Ensuite, il y avait donc tout ce qui était rites et cérémonies d'obsèques étaient suspendus ou retardés suite à un nombre extrêmement élevé donc de décès. Les entreprises de pompes funèbres ne pouvaient pas intervenir normalement. Pour exemple, il y avait donc interdiction de pénétrer dans le crématorium, impossibilité de voir l'entrée donc du cercueil donc dans un four, et obligé d'attendre sur le parking du crématorium qu'il y ait la remise de l'urne funéraire.
Et tout ça, c'était pourquoi ? C'était par la peur de la contamination ? Ou c'était parce que les sociétés étaient débordées, les sociétés de pompes funèbres ?
Alors, les sociétés de pompes funèbres, premièrement, étaient débordées, donc ne pouvaient pas, en temps utile, à la fois organiser donc des crémations, accorder suffisamment de temps aux familles, ou permettre aux familles d'être en nombre suffisant dans les cimetières, puisque les cimetières, le nombre de personnes était limité donc à 20 personnes, c'est-à-dire uniquement les très proches personnes donc de la personne défunte, ainsi que le personnel donc du funéraire. Et c'est pour ça que, pour information, il y a eu donc des retards qui étaient accordés, des délais de 21 jours pour une inhumation ou une crémation après le décès, alors que normalement ce délai est de 6 jours ouvrables, dimanche et jours fériés non compris. Donc véritablement, donc les familles étaient atterrées par tous ces interdits, mais c'est vrai que ça a surtout été donc dans les premiers jours, et ensuite ces mêmes personnes ont compris que même si elles ne pouvaient pas se déplacer, il y aurait donc par la suite donc des cérémonies donc de reconnaissance, des cérémonies en cimetière ou des cérémonies avec l'urne ou les cendres cinéraires, et pour un seul but, c'est faire que le virus ne puisse pas se propager. Il était interdit aux personnes, mettons, d'être présente lors de cérémonies religieuses ou de rites religieux. Les toilettes rituelles n'étaient plus autorisées. Lorsqu'il y avait un décès au domicile, immédiatement, donc, il y avait une mise en cercueil, un transfert vers une chambre funéraire privée, donc, ou un dépositoire, en sachant qu'il y a eu aussi des scandales dans ces dépositoires, donc, qui étaient ouverts sur décision du préfet.
Vous parlez par exemple de Rungis, pardonnez-moi, Michel Kavnik. On sait qu'il y a un certain nombre d'endroits ont été ouverts. Vous pensez notamment à cet entrepôt de Rungis, c'est ça?
Tout à fait, où il y a eu donc des attitudes extrêmement critiquables de l'entreprise qui était responsable donc de sa gestion. Donc ce fut le cas pour Rungis.
Parce qu'on a fait payer les familles pour se recueillir devant les cercueils, c'est ça?
Faire payer une somme très conséquente pour que les familles puissent pénétrer dans un entrepôt frigorifique et voir ou approcher un cercueil sans pouvoir le toucher pendant quelques minutes. Ceci n'est pas normal. Il doit y avoir une éthique véritablement commerciale qui, concernant le deuil et les obsèques, qui n'a pas été prise en compte par ce grand groupe funéraire, tout à fait.
Est-ce que la situation revient à la normale maintenant, Michel Kavnik?
Au fur et à mesure, oui, la situation revient à la normale parce que il n'y a plus ce nombre extrêmement important donc de décès, et il y a une possibilité maintenant pour que les familles de nouveau se rapprochent des sociétés de pompes funèbres qui avaient été mandatées afin que celles-ci puissent organiser des cérémonies religieuses, cérémonies donc de dispersion de cendres, cérémonies d'inhumation en cimetière, avec, je dirais, tous les rites et l'accompagnement nécessaire. Donc, il y a un retour à la normale des cérémonies et des rites funéraires, mais naturellement, ceci ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas eu donc cette pandémie, en tous les cas, bon, l'Association française d'information funéraire tient aussi, c'est à souligner, que les familles doivent absolument se mettre aussi en concurrence, donc les sociétés de pompes funèbres, car les coûts varient énormément d'une entreprise à une autre entreprise, et il faut savoir se mettre en concurrence donc ces entreprises. Et là, l'association, naturellement, donc peut les aider, comme elle a aidé lors de la pandémie pour expliquer aux familles, malheureusement, ce qu'elles devaient accepter afin d'éviter donc des catastrophes supplémentaires.
Alexandre Lacroix de Philosophie Magazine est toujours avec nous. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces rituels bouleversés concernant les décès? C'est évidemment quelque chose qui va laisser des traces.
Oui, moi c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié le témoignage de Jacques, parce que il pointait quelque chose qui est extrêmement difficile, c'est l'impossibilité de se dire adieu. C'est vrai que les obsèques, les cérémonies se sont parfois déplacées. Il y a des gens qui ont même organisé des sortes de cérémonies virtuelles, enfin virtuelles, c'est-à-dire des réunions de famille via des moyens qu'on utilise en entreprise d'habitude pour les téléconférences. Et les rituels se sont réinventés, mais l'impossibilité de dire adieu à des gens qu'on aime, ça, je crois que c'est une grande douleur. Alors, ce qu'on peut en dire, je dirais philosophiquement, c'est que on touche là à un point sur lequel il y a deux positions en philosophie. Il y a vraiment deux visions des choses sur ce que c'est que la mort. Il y a tout un courant de pensée, si vous voulez. Alors le grand représentant, ce serait Martin Heidegger, mais il y a tout un courant de pensée qui vient du romantisme allemand et qui vous dit que on meurt toujours seul. C'est quelque chose qu'on entend, c'est-à-dire que au fond, si on est vraiment d'accord avec ce courant de pensée, on se dit que la mort, c'est le moment, le mourir même, c'est le moment de la plus grande solitude. Et même si les gens sont là pour vous dire adieu, c'est une confrontation ultime avec ce que vous êtes, avec le sens de votre vie, et là où vous allez, en fait, eh ben, personne ne peut vous accompagner. Bon, ça c'est une vision des choses. Et puis, il y a une autre vision des choses pour citer un philosophe qui l'incarnerait ou qui la représenterait, c'est Paul Ricoeur. Mais cette autre vision des choses consiste à dire que dans les derniers instants de sa vie, en rassemblant autour de soi sa famille, ses enfants, ses descendants, en fait des gens plus jeunes, des gens qui sont encore en bonne santé, qui sont encore en vie, on peut transférer notre amour de la vie sur eux. C'est-à-dire que, en fait, en quelque sorte, on arrive au bout de sa propre existence, mais on peut sentir à travers le rassemblement des proches et en disant adieu aux proches que la vie va continuer au-delà de nous-mêmes. Évidemment, du point de vue de l'égoïsme et même du point de vue subjectif, c'est terrible de mourir, mais en même temps, il y a un peu de consolation dans le fait que l'aventure de la vie continue pour d'autres, surtout si ces autres, ce sont des enfants ou des petits-enfants. Alors, moi j'avoue que j'aime bien cette deuxième position, c'est la position de Paul Ricoeur, la position qui consiste à dire qu'au moment des derniers instants, on peut dire adieu, on peut transmettre quelque chose, on peut transférer son goût de la vie sur les autres. D'ailleurs, vous savez, on parle beaucoup de mort, mais nous, enfin, toute l'équipe, nous on a tous été confinés dans des conditions différentes. La chose dont on a eu envie de parler, là, on sort d'un numéro qu'on vient de boucler, qui sort là dans quelques jours, sur le goût de la vie. Parce qu'on s'est dit qu'au fond, toute cette expérience qu'on vient de vivre, alors je digresse un peu, mais toute cette expérience qu'on vient de vivre, qui est très marquée par la maladie et de la mort, est aussi une expérience fondamentale qui interroge notre goût de la vie. Et je dirais que pouvoir dire adieu à ses proches, c'est vivre une mort qui n'est pas complètement déconnectée, si vous voulez, de ce goût de la vie. Voilà.
Mais de toute façon, tout le monde a dit que ce confinement avait servi à réfléchir. Hein. Ça, c'est une certitude. Peut-être quand même un mot de la forme que peuvent prendre les cérémonies d'adieu laïques, religieuses, ouais, spirituelles.
J'ai recueilli un témoignage qui m'a beaucoup intéressé d'une femme qui s'appelle Annie Kahn et qui a perdu une de ses tantes qui était âgée de 97 ans. Alors, elle est morte en EHPAD et elle est morte du Covid. Ils ont testé, ils savent que c'est bien le Covid-19 qui l'a emporté. C'était une très vieille dame, donc c'était une mort un peu annoncée pour la famille, mais quand même, la famille était très attachée à cette tante. Et ce qu'elle a raconté d'intéressant, effectivement, c'est que la famille était dispersée, les petits-enfants, à travers le monde. Et ils ont décidé, alors que les obsèques se tenaient en tout petit comité, 2-3 personnes, au même moment, à l'heure même des obsèques, d'organiser une visioconférence. Ils savaient pas du tout comment s'y prendre parce que c'était pas ritualisé. Mais la chose qui s'est passée, c'était spontané, hein. C'est que ce qu'elle raconte, Annie Kahn, dans le témoignage que j'ai recueilli, donc, elle raconte que chacun a fait un éloge de cette tante qu'ils avaient perdue. Chacun fait une sorte d'éloge funèbre en racontant un souvenir, quelque chose qui l'avait marqué, une image qui lui restait de cette tante. Et très étrangement, ce que dit Annie Kahn, c'est que ça a presque été plus bouleversant. Elle vient d'une famille, dit-elle, qui n'est pas religieuse, et donc il y a peu de ritualisation religieuse de la mort. Et là, finalement, ils se sont retrouvés à faire quelque chose d'assez rituel. Parler chacun à son tour, en visioconférence, prendre chacun la parole pour dire quelque chose d'important sur la personne qui vient d'être perdue. Alors, ça me paraît une modalité possible. On voit bien que ça remplace pas des obsèques directes ou un enterrement direct, mais ça paraît quand même une piste intéressante.
Effectivement. Alors, on va laisser de côté quelques minutes la question des enterrements, parce que nous avons des questions qui nous arrivent sur l'application France Inter, et on en a une, en tout cas, on en a deux même. On en a une première qui nous dit, c'est Martine, mon fils devait se marier en juillet, il a versé un acompte au traiteur pour la location de la salle. Comment se faire rembourser, Stéphane Seban? Ça, c'est une question pour vous.
Oui, tout à fait, bien sûr. Donc effectivement, je ne sais pas si c'est Martine qui se marie ou ses enfants, j'ai pas bien suivi, mais en tout cas...
C'est le fils de Martine.
Alors oui, effectivement, dans les conditions générales de vente qu'ils ont signées avec le traiteur, soit il y avait une clause concernant l'annulation pour cas de force majeure, et auquel cas, eh ben, oui, bien sûr, ils se font rembourser l'acompte. Dans le cas contraire, personne n'est mort, ils vont reporter leur mariage et il y a de fortes chances que, enfin, moi j'ai des retours de tous les professionnels du secteur, majoritairement les reports sont acceptés et si les enfants de Martine se marient l'année prochaine, et ben ils continueront avec le même traiteur, ils n'auront plus que le solde à verser.
Il y aura des conséquences économiques importantes pour tous ceux qui travaillent dans le secteur du mariage, Stéphane Seban?
Bien sûr, Bien sûr, et c'est énorme. Il y a 55 000 entreprises qui travaillent dans l'événementiel mariage. Et souvent, ce sont des TPE ou des PME qui ont pris de plein fouet cette crise, puisqu'ils n'avaient pas de salariés à mettre en chômage partiel pour beaucoup d'entre eux, par exemple. Ils n'étaient pas éligibles au PGE. Pour certains, ils n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité. Enfin, ça a été relativement compliqué. On a eu un plan tourisme qui comprenait l'événementiel pour ces professionnels. Mais malheureusement, ils n'étaient pas dans les codes APE de ce plan tourisme. On les y a fait rajouter là par décision ministérielle au 10 juin. Donc il y a 70 codes APE qui ont été rajoutés à ce plan tourisme concernant spécifiquement l'événementiel. Donc ça va leur permettre peut-être de sortir un tout petit peu la tête de l'eau. Mais effectivement, c'est un secteur qui est très touché. Et s'il s'agit d'un petit traiteur, une petite entreprise familiale, effectivement, si tout le monde leur demande de rembourser les acomptes, en attendant un report éventuel ou en annulant purement et simplement, et bien ils mettent la clé sous la porte et ils peuvent rembourser personne. Pour certains d'entre eux, ou pour une grande partie d'entre eux, ce sont des petites entreprises, hein, je vous le rappelle.
Une question concernant les reports de mariage. Certains ont préféré évidemment reporter et on apprend que en fait reporter à l'année prochaine, c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a déjà énormément de créneaux, de dates réservées. C'est vrai ça?
Ben oui, exactement. C'est vrai que les endroits, c'est surtout les lieux de réception finalement hein, qui sont bloquants d'une certaine manière, mais sans le vouloir par la force des choses. Mais un endroit pour se marier en général, c'est au printemps ou en été, donc il faut un extérieur, etc. Ils sont pas légion et ils sont pris d'assaut en avance, quasiment un an avant. Et il y a bien sûr les mariages de 2021 qui arrivent et donc qui commencent déjà à réserver. Il y a tous les mariages de 2020 qui se reportent sur 2021 et obligatoirement ça fait des embouteillages.
Le budget moyen d'un mariage, Stéphane Seban, 8000 euros, c'est de cet ordre-là?
Alors, non, on n'est pas sur la même étude. Ça, c'était une ancienne étude IFOP
qui date, dont la
question, non, c'est même pas qui date, mais la question était posée à des gens qui ne se mariaient pas. Et on leur disait, si jamais vous deviez vous marier, combien dépenseriez-vous dans votre mariage? Donc, 8000 euros, c'est ce qu'ils ont répondu dans la pratique.
Alors, ceux qui se marient, ils dépensent combien en moyenne?
Ceux qui se marient dépensent en moyenne 12400 euros.
Ah
ça,
oui.
C'est le budget moyen d'un mariage. Alors, ça peut paraître énorme dans ce « oui », effectivement.
Non, mais enfin, quand il faut le reporter ou quand il faut l'annuler, effectivement, ça mérite réflexion. Une question que je vous soumets, Stéphane Seban, puis ensuite je vais la soumettre à nos deux autres invités, c'est Romain sur l'application France Inter. Le monde d'après ne serait-il pas mieux sans les rites souvent religieux, parfois archaïques? Je ne sais pas si... dites-nous déjà peut-être pour le mariage.
Moi, je crois que chacun voit midi à sa porte, effectivement, pour certains d'entre eux, dont Béatrice qu'on a dû avoir tout à l'heure. Je pense que le mariage religieux était une condition sine qua non du mariage et faisait partie du mariage. Alexandre, on a parlé tout à l'heure en disant il y avait d'un côté la loi, la mairie, le contrat, mais il s'agit aussi du contrat moral et religieux qui est passé à l'église, à la synagogue, à la mosquée ou ailleurs. Et il fait partie du même pendant du mariage, en sachant que l'autre pendant indissociable est bien sûr la fête et la réception.
Michel Kavnik, président de l'Association française d'information funéraire, le monde d'après serait-il mieux sans les rites, souvent religieux, parfois archaïques, et je cite toujours Romain. Il faut des rites.
Écoutez, les rites permettent, je dirais aussi aux vivants, de passer différents stades, de pouvoir commencer un travail du deuil. Et en analysant les rites, bon, même s'il y a une perte d'influence religieuse en France, eh bien encore beaucoup de personnes désirent pour eux-mêmes ou pour la personne défunte qu'il y ait une cérémonie même très courte à l'église. Ceci fait partie, je dirais, du contexte de vie. Ceci fait partie, oui, des rites qui permettent donc de passer ce stade et de pouvoir continuer de vivre normalement en s'étant attaché donc à certaines cérémonies.
Deux ou trois petites questions avec des réponses rapides si c'est possible, juste de manière pratique. Actuellement, combien de personnes acceptées aux enterrements? 10, 20, on en est à combien en attendant des nouveautés?
À ce jour, en sachant que tout peut être modifié par le Haut Conseil de la Santé publique, il ne peut y avoir qu'au maximum 20 personnes dans les cimetières de présentes, avec interdiction naturellement d'embrassade, d'accolade, de se toucher et de toucher le cercueil. Donc ceci est extrêmement limité, c'est pour ça que nombre de familles et d'entreprises de pompes funèbres remettent à plus tard des cérémonies normales en cimetière, bien après que le cercueil ait été inhumé.
Alors justement, j'allais vous demander aussi, on peut attendre pour l'inhumation, à condition d'entreposer le corps, on peut faire la cérémonie quand on veut?
Naturellement, donc l'inhumation doit répondre à un certain nombre de jours. Autrement, naturellement, donc des délais peuvent être demandés donc au préfet, mais rien n'interdit que 3 mois, 4 mois, 6 mois après l'inhumation même dans un caveau ou une concession, il puisse y avoir une cérémonie avec l'ensemble de la famille, cérémonie accompagnée éventuellement par des professionnels du funéraire.
La dernière question sera pour Alexandre Lacroix de Philosophie Magazine. Est-ce qu'il faudrait éventuellement envisager des cérémonies collectives après ce que nous venons de traverser, cette crise sans précédent qui a fait plus de 29 000 morts dans notre pays? Il y a des pays, je crois, qui ont instauré en tout cas une période de deuil. Qu'est-ce que vous en dites, Alexandre Lacroix?
Ah, alors, c'est une question qui me surprend parce que je n'y avais pas songé. C'est vrai que je vois il y a un danger d'amnésie, c'est-à-dire que on vient de vivre quelque chose d'assez important et on a l'impression que un certain nombre de forces dans la société se mobilisent pour que tout redémarre exactement comme avant. Peut-être que un rituel, alors je sais pas si c'est un rituel, je sais pas comment il faudrait l'organiser en fait, c'est une minute de silence, je sais pas si ce serait la bonne chose, mais disons que les rites servent en fait, comme ils reviennent chaque année, qu'ils reviennent cycliquement, ils servent à réactualiser un événement qu'on a vécu. C'est pour ça qu'on a un jour férié le 8 mai 1945. Voilà, c'est un jour important et on le réactualise. Est-ce qu'il faut trouver une manière de réactualiser chaque année cet événement? Est-ce qu'il est suffisamment important? Peut-être. Le rite, en tout cas, ça sert à ça. Ça sert à incruster dans le présent la mémoire du passé.
Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alexandre Lacroix, et vous nous l'avez signalé tout à l'heure, prochain numéro de Philosophie Magazine en kiosque jeudi, ce sera Le Goût de Vivre. Merci Alexandre Lacroix, merci Stéphane Seban, merci beaucoup Michel Kavnik. C'est l'heure de la pub.